Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission des Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons en ligne Jean-Claude Katende. Il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Bonjour, maître Jean-Claude Katende.
Bonjour Monsieur Guimaté, bonjour aussi aux auditeurs, aux auditrices de la radio Okapi, mais aussi à mes co-débatteurs qui sont là avec moi.
Merci. Et aussi en ligne, Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste indépendante, elle est défenseuse des droits des femmes, elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Bonjour Madame Bernadette Kamango.
Oui, bonjour. Bonjour à tous les co-débatteurs ainsi qu'à tous les auditeurs de Radio Okapi et à vous-même.
Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Gaben à Butembo en RDC. Bonjour professeur Pierre Virgence.
Bonjour à vous, bonjour à Radio Okapi, à ses auditeurs et bien entendu à mes co-débatteurs.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue de l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Chers auditeurs, auditrices et internautes des Radio Okapi, votre radio vous donne encore une autre possibilité de suivre ces programmes. Rejoignez-nous désormais sur le bouquet Canal+, channel 951. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Nous sommes dans Regard sur la totale de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de maître Jean-Claude Katende, avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Madame Bernadette Kamango, journaliste indépendante, elle est défenseuse des droits des femmes, elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre, et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, professeur Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Gaben à Butembo en RDC. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir le président Félix Tshisekedi conditionne la tenue des élections 2028 à la fin de la guerre dans l'Est de la RDC. Les violences basées sur le genre en RDC dans les zones hors conflit. Et enfin, le chef de l'État congolais n'exclut pas un troisième mandat. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la prise de position d'Emmanuel Macron sur les conflits dans l'Est de la RDC. En effet, alors que la RDC et le Rwanda avaient entériné en décembre dernier un accord de paix sous l'égide des États-Unis sans parvenir à mettre fin aux hostilités sous les différentes lignes de front, le président français Emmanuel Macron s'est opposé à l'adoption des sanctions collectives contre Kigali. Il a plutôt appelé les deux États à reprendre les dialogues. Lors d'une interview accordée mardi 12 mai à France 24 et RFI, en marge du sommet Forward Africa tenu à Nairobi au Kenya, le chef de l'État français a défendu une approche en plusieurs axes. Dialogue direct entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame, retrait de toutes les forces étrangères, reprise des négociations politiques avec l'AFC M23 et remise de l'Union africaine au centre du processus de paix. Concernant les sanctions américaines contre Kigali, Emmanuel Macron a été explicite. Multiplier des pressions extérieures risquerait de rendre le Rwanda moins coopératif. Selon lui, mieux vaut revenir au principe du dialogue. Pour le président français, la politique de l'isolement est contre-productive. Il préfère privilégier la vertu du dialogue respectueux avec les dirigeants congolais et rwandais plutôt que des mesures punitives afin de favoriser une résolution durable du conflit dans l'est de la RDC. Maître Jean-Claude Katende, Emmanuel Macron appelle au dialogue direct entre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame et rejette les sanctions collectives contre Kigali. Comment vous analysez cette prise de position du président français?
Merci, Monsieur Guy Maté, pour la parole, mais aussi pour l'invitation que vous m'avez adressée pour participer à cette émission.
Je vous en prie.
En suivant la déclaration faite par le président français, je me réalise qu'il ne tient pas compte du temps que les Congolais ont passé en supportant les exactions des troupes rwandaises en République démocratique du Congo, mais aussi des pillages des ressources naturelles de notre pays. Je voudrais lui dire que ce conflit date d'il y a 30 ans et que le dialogue qu'il préconise, le Congo l'a toujours souhaité et le président Tshisekedi avait pris des initiatives intéressantes, notamment en associant le président Kagame et le Rwanda à l'exploitation des ressources naturelles du Congo. Cela n'avait pas ébranlé l'attitude belliqueuse du président rwandais. Il a fallu que le président de la République, M. Félix Tshisekedi, prenne une autre posture, qui est celle de dénoncer l'occupation de notre pays par les troupes rwandaises, avec la complicité du M23 et de l'AFC, pour qu'on arrive au changement actuel. L'attitude du président de notre pays a fait évoluer le plaidoyer au niveau international, mais aussi il faut reconnaître que les sanctions qui ont été prises par les nations occidentales, les pays occidentaux et récemment les États-Unis, ont fait fléchir le président rwandais sur un certain nombre de questions. Mais dire que ces sanctions ne servent à rien, je pense que c'est perdre de vue les développements qu'il y a eu dans ce dossier. Et donc, je pense personnellement que c'est vrai qu'il faut poursuivre les dialogues, mais il est important aussi de prendre des sanctions contre les uns et les autres pour faire avancer les dossiers. Depuis la signature de l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, il y a eu certainement des réunions qui ont eu lieu, mais sur terrain, il n'y a pas de changement. Et surtout des changements en faveur des populations qui ont subi des humiliations depuis des années. Et donc, je souscris aux sanctions personnellement, mais je souscris aussi au dialogue, parce que je pense que cela est important pour obtenir des résultats attendus. Et les résultats ici, il est important que les troupes du Rwanda, qui ont été dénoncées par les Nations Unies et d'autres nations, quittent la République démocratique du Congo. Voilà mon positionnement par rapport à cette question.
Merci, Madame Bernadette Camango. Justement, les chefs de l'État français, non seulement ils s'opposent aux sanctions collectives contre le Rwanda, mais il recommande aux deux chefs d'État un dialogue direct. Et à votre avis, est-il possible d'envisager un autre dialogue entre les deux chefs d'État en dehors de celui qui est en cours, n'est-ce pas, dans le cadre du processus de Washington?
Je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas un dialogue entre les deux chefs de l'État, un dialogue direct, c'est possible, hein, parce que vous savez, nous on est des Africains, et l'arbre à l'arbre c'est l'une de nos valeurs auxquelles on peut toujours recourir. Bon, moi je pense que c'est toujours une sortie de crise que de vouloir procéder à travers l'organisation d'un dialogue entre les deux chefs d'État, parce que après tout ce sont eux qui dirigent deux pays, et derrière eux c'est des patriotes, des compatriotes plutôt, et qui souffrent. Nous avons depuis un certain temps tout l'aide de la RDC qui est en train de souffrir. Donc c'est le corps de la RDC qui a une partie de son corps qui est en train de souffrir. Moi, j'ai toujours été en faveur de dialogue parce que d'abord, ça nous évite de prendre des armes, d'avoir des personnes qui sont tuées gratuitement, innocemment, des personnes qui sont victimes de viols, c'est toutes les femmes, C'est comme ça, moi, j'ai toujours été en faveur du dialogue. Mais c'est là, en ce qui concerne les sanctions, je peux dire, sont reprochées par Emmanuel Macron, il n'y a aucune société qui fonctionne sans sanctions. C'est la sanction qui permet justement de faire freiner certaines ardeurs. Nous, on a quand même observé qu'à travers les sanctions à l'encontre, par exemple, de certains responsables rwandais, et même à l'encontre de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, ça freine certaines ardeurs, ça freine certaines, peut-être, actions qui étaient déjà projetées par eux contre la RDP, contre la population congolaise. Peut-être qu'on doit retenir que ce qui se passe entre la RDP et le Rwanda est largement suivi par plusieurs pays dans le monde. Pour moi, je pense que les propos d'Emmanuel Macron, à mon niveau, n'engagent que lui-même. On ne peut pas l'empêcher d'émettre son avis. Ce qui fait qu'on puisse un peu s'agiter sur ce peut utiliser ce mot aussi, c'est parce que la France est quand même un partenaire privilégié de la RDP. Je ne pense pas que son avis puisse directement impacter sur tout le processus de retour à la paix qui est déjà enclenché entre la RDC et le Rwanda avec l'appui, par exemple, d'une puissance comme les États, avec les discussions de Doha. C'est déjà de larges avancées qu'on doit pouvoir saluer. Je crois que recourir au dialogue, ça fait partie des solutions.
Merci, professeur Pierre Vigence. Certes, le gouvernement congolais rejette cette prise de position d'Emmanuel Macron, mais à votre avis, ça peut être quoi le mérite de cette proposition d'Emmanuel Macron?
Le mérite, je dirais, c'est comme Madame Kamango vient de le dire, c'est d'évoquer la possibilité d'un dialogue. Et il ne faut pas oublier de contextualiser ce voyage d'Emmanuel Macron. Je dirais cette rencontre avec des pays africains, c'est une des premières fois qu'un président français participe à une organisation pareille en dehors de la francophonie, en dehors d'États anciennement francophones, parce qu'effectivement il n'aurait pas pu trouver un pays africain francophone qui a été colonisé par les Français qui aurait pu l'accepter parce que les opinions publiques sont remontées contre lui. Donc il a adopté là un langage et un discours convient aux pays anglophones qui considèrent que le Rwanda est un pays bien géré, même si à leurs yeux il y a des dégâts en République démocratique du Congo, c'est un dégât collatéral qui ne dérange pas trop, et donc ce n'est pas du tout en fonction d'un souci de sauvegarder la population congolaise qu'il dit ça, c'est en fonction du souci d'être simplement entendu par des pays anglophones, parce que là où il était, la tribune, était constituée de pays anglophones. Et donc son discours, il faut le relativiser comme cela. Le pouvoir de la France, même à cet endroit-là, à Nairobi, on a bien vu qu'il était incapable de dire qu'il pouvait amener de l'argent aux pays africains. Il dit tout ce que je peux vous promettre, c'est qu'il y aura des investissements. Mais même les investissements, c'est pas lui qui les décide, ce sont des investisseurs. Et donc, autrement dit, ce dernier, je dirais, cette dernière réunion panafricaine avec la France, c'est probablement la dernière du mandat d'Emmanuel Macron. Il avait envie de dire quelque chose, il a dit n'importe quoi, on peut le dire, puisqu'on est entre Congolais, et qu'on sait bien que dire qu'il faut commencer le dialogue, mes deux prédécesseurs l'ont dit, le dialogue est déjà en route, le dialogue est déjà évidemment méprisé par un des deux partenaires qui n'a pas du tout l'intention de retirer vraiment ses troupes. Quoique on a vu justement depuis deux jours qu'il y avait maintenant un retrait des troupes du M23 et donc peut-être que ça c'est un signe effectivement, peut-être qu'Atendé l'a évoqué, que les pressions américaines, et pas françaises, les pressions américaines auraient commencé à être efficaces parce que tout doucement, je dirais, les Américains commencent à sanctionner des militaires rwandais, et donc là on voit qu'il y a peut-être un début pour les Américains, une volonté de toucher les avantages de l'investissement relativement peu élevé d'ailleurs, qu'ils ont fait en négociant, en obligeant le Rwanda et la RDC à négocier. Donc il est possible qu'il y ait un début de solution, mais ce ne sera évidemment pas la parole du président français qui va peser dans la balance.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Bellamy de Papa Noël Nedoulé et on se retrouve juste après. Bellamy de Papa Noël Nedoulé. On rappelle que c'est depuis le 11 novembre 2024 que Nedoulé Papa Noël nous a quittés. Paix à son âme. On revient à l'actualité cette semaine. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a déclaré qu'il ne serait pas possible d'organiser les élections prévues en 2028 si la guerre dans l'est du pays ne se termine pas. C'était lors d'une conférence de presse tenue mercredi 6 mai à Kinshasa. Si nous ne parvenons pas à mettre fin à cette guerre, malheureusement, il ne sera pas possible d'organiser les élections en 2028, a affirmé le chef de l'État. Félix Tshisekedi a justifié cette position par la situation sécuritaire dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, toujours touchées par les conflits armés. Selon lui, organiser un scrutin dans ces conditions serait techniquement et politiquement difficile, voire impossible. Comment est-ce qu'on va organiser des élections sans le Nord et le Sud Kivu, s'est-il interrogé. Pour illustrer son propos, le président congolais a cité la situation en Ukraine où les élections ont été suspendues en raison de la guerre depuis 2 ans. Il a estimé que la communauté internationale comprend ce type de décision lorsqu'un pays est en situation de conflit armé. Jean-Claude Katende, vous êtes avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Vous êtes également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Vous avez souhaité nous parler justement du fait que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, conditionne la tenue des élections de 2028 à la fin de la guerre dans l'Est de la RDC. On vous écoute.
Merci, Monsieur Guy Maté, pour la parole. Et je suis bien content de voir que vous allez repris le propos du président de la République, tel qu'il les avait prononcés lors de sa conférence de presse destinée aux journalistes. Je comprends bien la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo aujourd'hui, à Goma comme à Bukavu. Et je suis d'avis personnellement aussi que dans les conditions actuelles, il serait difficile d'organiser des élections à Goma et à Bukavu, les villes qui sont occupées aujourd'hui par les troupes rwandaises, dont nous condamnons l'agression, et ses complices de l'AFC M23. Mais je comprends aussi la position du président de la République qui tend à conserver le pouvoir. Et la guerre devient en fait un alibi pour conserver le pouvoir au-delà, n'est-ce pas, de la période de son mandat. Mais ce que je voudrais dire, c'est que la question électorale en République démocratique du Congo, elle est réglementée par la Constitution et la loi électorale. C'est que le président de la République sait très bien. Ça veut dire en d'autres termes qu'au terme de l'article 70 de notre Constitution, il est clairement indiqué que le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et en considérant cet article, le président Tshisekedi devra partir du pouvoir en 2028. Et je pense qu'il est de son devoir de partir comme le président Kabila était parti, ce qui donnerait un certain dynamisme à l'alternance politique dans le pays, mais aussi à notre démocratie. Chercher à s'accrocher au pouvoir n'est pas une très bonne chose pour le président de la République.
Et donc, maître Jean-Claude Kassendé, vous êtes convaincu que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pourrait exploiter cette situation de guerre pour obtenir un glissement?
Mais effectivement, je pense qu'en prenant l'exemple de l'Ukraine, il présage indirectement un glissement en restant au pouvoir pendant tous les temps où la guerre va durer. Et cela, je pense que le président lui-même doit savoir qu'il ne sera pas le seul à décider de la destinée de la République démocratique du Congo en 2028. Donc, en 2028, le président de la République, si les élections ne sont pas organisées, il n'aura pas toutes les cartes entre ses mains. Il n'aura pas la possibilité de décider tout seul de l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc, il devra trouver un accord avec les forces politiques et sociales du pays pour pouvoir gouverner la République démocratique du Congo. Penser qu'il va décider tout seul après les termes de son mandat me paraît tout simplement irréaliste. D'autant plus que nous avons déjà un précédent en 2016 avec le président Kabila, qui, pour des raisons qui lui étaient personnelles, n'avait pas voulu organiser les élections dans des termes définis par la Constitution, il était obligé de convoquer le dialogue, principalement de la CENCO, qui avait abouti à un accord qui a permis à ce que la période du glissement puisse être gérée de manière consensuelle par les forces en présence. Mais je dois aussi souligner le fait que conditionner les élections par, n'est-ce pas, la fin de la guerre a des risques, et surtout pour le président dont nous savons qu'il veut rester au pouvoir, parce qu'il l'a dit lui-même qu'il n'a pas besoin de rester au pouvoir, que si le peuple lui demandait de rester, il va rester. Mais il sait bien que s'il reste dans ces conditions-là, il viole la Constitution de la République. Merci. Je sais que le plus souvent, les adeptes de la thèse du président de la République évoquent l'article 5 de la Constitution, qui parle de la souveraineté du peuple. Mais le peuple peut mettre lui-même des limites à sa propre souveraineté. Donc les conséquences sont que si on conditionne les élections par la fin de la guerre, il n'y aura jamais de fin de la guerre.
Merci beaucoup, maître Jean-Claude Katende. Madame Bernadette Kamango, vous êtes journaliste indépendante, vous êtes défenseuse des droits des femmes, vous êtes également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Dès lors que cette guerre peut constituer une raison valable ou pas pour servir, n'est-ce pas, certains intérêts politiques, n'est-ce pas qu'il y a des risques réels, comme on l'a dit maître Jean-Claude Katende, qu'elle puisse s'enliser, non pas parce qu'il est difficile d'y mettre fin, mais parce que cela arrangerait certaines personnalités politiques?
Bon, le problème qu'il y a dans ces situations des conflits armés ou bien des guerres, c'est que ça arrange toujours certaines personnes quelque part. Ça, c'est un fait. Ça a déjà été prouvé sur toutes les zones à conflit. Donc, ce qui est vrai, c'est qu'on fait face pour le moment à une situation totalement incertaine. Je pense qu'en ce qui concerne la question, si ma mémoire est bonne, ben, jusqu'à présent, eh bien, la tenue des élections s'est souvent passée sans la participation de nos compatriotes à l'est du pays, et précisément ceux qui sont au nord Kivu. Évidemment, ce qui concerne la position du chef de l'État, ça ne peut susciter que des interrogations. Beaucoup se demandent quels sont les intérêts cachés, est-ce qu'il y a un agenda caché là derrière. C'est ce qui fait poser la question que vous me posez là. Donc, on peut dire que ça, il y a un lien par rapport à ce fait-là. Comparer la situation, par exemple, de la RDC à celle de l'Ukraine, je peux dire que cette comparaison est quand même un peu risquée, surtout que les réalités du terrain sont totalement différentes. Par exemple, l'Ukraine, elle est directement agressée par la Russie, pendant que la RDC, elle fait beaucoup plus face à une rébellion instrumentalisée par le Rwanda. Nous ne savons pas encore exactement ce qui peut se passer d'ici 2028, tout en espérant que les choses, évidemment, s'améliorent. Et c'est pourquoi, moi, à mon niveau, je préfère encore donner le bénéfice du doute sur cette position, en espérant que le processus de paix, par exemple celui de Doha, ce qui se passe à Washington ou bien autres, finiront réellement par aboutir et que les armes pourront réellement se taire d'ici là, afin de permettre justement à nos compatriotes de l'Est de participer aux élections.
Merci. Professeur Pierre Vigence, vous êtes politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Gaben à Butembo en RDC. Organiser les élections sans le Nord ou le Sud Kivu, ou ne pas les organiser parce qu'il y a la guerre, dans les deux cas, les conséquences sont inévitables. Mais à votre avis, quelle pourrait être, pas la bonne option, mais plutôt l'option acceptable?
En réalité, effectivement, vous avez raison, dans une situation de guerre dans une partie importante du pays, organiser les élections présente des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, et Maître Katende l'a rappelé, c'est de respecter les principes juridiques de base qui font la confiance de la population dans le pouvoir, et notamment, il a bien fait de rappeler qu'il y avait eu un référendum en 2005 sur la Constitution, et je peux vous témoigner, mais tous les Congolais peuvent le faire aussi, qu'une partie importante des Congolais ont voté en faveur de cette Constitution parce qu'elle garantissait que le pouvoir n'allait pas être monopolisé par quelqu'un qui était assis à la présidence. Et ça, c'est clair que cette impossibilité de faire plus que deux mandats, de même que l'article 220 qui ne peut pas être soumis à révision et qui garantit justement l'impossibilité de changer cette partie-là de la Constitution, c'était une des conditions politiques importantes de l'approbation de cette Constitution par la population. Ça, c'est un élément très important à prendre en compte. Il est important de prendre en compte aussi le fait que la société civile, avec notamment les marches des chrétiens, etc., qui ont obligé le président Kabila à organiser des élections en 2018. Et donc, on peut dire d'une certaine manière que c'est bien la puissance des citoyens congolais qui a obligé un président, qui, on s'en souvient à l'époque, ils ne souhaitaient pas trop organiser les élections, ils l'ont obligé à organiser les élections. Vous vous souvenez aussi qu'il avait présenté un candidat qui qu'il poussait et que ce candidat n'a pas du tout été choisi par les Congolais et qu'il a dû se rabattre dans son choix puisque c'est vrai que les élections n'ont pas été correctement organisées, que les résultats n'ont jamais été correctement publiés. Et donc, effectivement, Tshisekedi a été choisi, mais il se fait qu'il arrive à la tête d'un pays où les citoyens savent une chose, c'est qu'ils ne veulent pas que le président reste tout le temps au même endroit, au même poste. Et donc, ça, c'est très important à savoir, c'est que la population a empêché Kabila, qui avait tous les moyens militaires en main, de se représenter une troisième fois, et bien effectivement, on risque de voir le même scénario qui se présente ici, et le fait de ne pas pouvoir organiser des élections dans des provinces très peuplées, hein, les deux qui vous sont des parties avec la densité de population la plus forte en fait au Congo, et bien effectivement, le fait de ne pas pouvoir organiser des élections, ça représente effectivement un inconvénient, et je pense que pour l'ensemble des Congolais, y compris pour les Kivusiens, organiser des élections sans eux, c'est quand même moins grave que d'organiser des élections seulement quand la paix sera là et qu'on aura terminé les querelles avec le Rwanda. Surtout que maintenant, nous savons qu'il y a déjà le début de retrait des troupes du M23, programmé évidemment ce retrait par le Rwanda, et donc peut-être aussi que l'excuse de l'occupation du pays par les troupes étrangères ne pourra pas tenir d'ici 2 ans. N'oublions pas qu'il y a encore 2 ans. Annoncer maintenant qu'on ne sait pas faire la paix dans 2 ans, c'est quand même un peu bizarre.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. Le lundi 11 mai, les mélomanes à travers le monde en général et en RDC en particulier ont commémoré la mort de Robert Nesta Marley, dit Bob Marley, ce chanteur de reggae, auteur, compositeur, interprète et guitariste jamaïcain. Bob Marley est mort le 11 mai 1981 aux États-Unis à l'âge de 36 ans. Et pour lui rendre hommage, on va écouter l'un de ses classiques intitulé Is This Love, et on revient juste après.
Is this love?
Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur la côté de la semaine. Je rappelle que chaque vendredi à partir de 21h et samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué la côté de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la prise de position d'Emmanuel Macron sur la crise entre la RDC et le Rwanda. Nous avons également analysé l'organisation des élections de 2028 qui est conditionnée à la fin de la guerre. Participe à cette émission, Jean-Claude Katende, il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste indépendante et elle est défenseuse des droits des femmes. Elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, Pierre Virgence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Gaben à Butembo en RDC. Les violences basées sur le genre VBG ont été présentées comme la manifestation la plus cruelle d'inégalité entre les hommes et les femmes par l'ambassadrice d'Espagne en République démocratique du Congo. Selon l'agence congolaise de presse, c'était lors d'un atelier de formation des journalistes mercredi 6 mai à Kinshasa. La violence à l'égard des femmes, c'est la manifestation la plus cruelle d'inégalité. C'est le manque de respect, le manque de dignité envers la femme, mais très souvent déguisé en tradition, a déclaré Carmen Diez Orejas. Elle a exprimé son satisfecit de représenter un pays qui fait de la promotion de l'égalité des genres une priorité nationale et internationale. Je suis fier d'être la représentante d'un pays qui a fait de la promotion de l'égalité des genres entre les hommes et les femmes une priorité. Mais pas seulement une priorité nationale, mais c'est aussi une priorité de notre politique extérieure. Madame Bernadette Kamango, vous avez souhaité nous parler justement des violences basées sur le genre en RDC dans les zones hors conflit. On vous écoute.
Oui, dans les zones hors conflit, parce que pour rappel, il faut savoir que les violences basées sur le genre, donc les BBG, ont d'abord été mises en exergue par les exactions qui étaient commises sur le corps des femmes vivant dans les zones de conflit à l'est du pays. C'est ce qui a déclenché un peu tous les mouvements actuels qui sont faits justement pour la promotion de la protection de la femme et pour lutter contre toute forme de violence basée sur le genre ici en RDC. Il faut savoir qu'à une époque même, la RDC a été appelée capitale du viol, vu que le viol était et continue à être utilisé comme arme de guerre. Malheureusement, le constat de ces BBG, c'est que ça ne s'applique pas seulement en terrain de zone armée, de conflit armé, mais également ça s'étend dans les zones de conflit non armé, au sein de la société même, congolaise, au sein du vivre congolais. Par exemple, on peut retenir sur des milieux comme au sein du foyer avec les violences conjugales dans la rue par des harcèlements, surtout actuellement sur le numérique, qui est une nouvelle forme qui vient d'être adoptée avec des insultes envers les femmes, surtout les femmes publiques. Mais le plus désolant, c'est quand on parle des BBG en milieu éducatif avec ce phénomène de déclin sexuellement transmissible et aussi à l'église. De plus en plus, l'église devient un terrain où les BBG sont de plus en plus décriés. Alors que ces deux milieux sont des milieux qui sont censés être les plus sûrs, des milieux de refuge pour toutes les personnes. Parce que quand on parle des BBG, c'est pas seulement la femme, c'est aussi les hommes, bien que les statistiques démontrent que c'est beaucoup plus la femme qui en est victime et surtout la jeune fille. Ces derniers temps, rien que pour cette semaine, on a enregistré deux cas très malheureux. Par exemple, une épouse enceinte de 8 mois qui est décédée sous le coup de son mari, tout simplement pour un problème d'une somme de 25 000 francs. Le deuxième cas, il y a à peu près 2 jours, c'est un pasteur d'une certaine église qui a violé à plusieurs reprises d'ailleurs une jeune fille de 16 ans, tout en lui promettant son soutien pour ses études. Donc actuellement, concernant les églises, d'ailleurs le ministre de la Justice a même déclaré qu'il existe 19 000 églises reconnues officiellement et 30 000 sont en attente d'ouverture. Bon, il semble qu'il y aurait des réformes pour durcir l'ouverture de ces églises et nous espérons que la qualité aussi de ces pasteurs sera prise en compte car de plus en plus les délinquants se cachent sous le col pastoral. En attendant, ce qu'on peut éclairer, c'est que le manque d'application stricte de nos lois, surtout en ce qui concerne la protection de la femme, pourtant consacrée dans la Constitution, à partir de l'article 14 et d'autres dispositions, mais aussi avec le Code de la famille qui a retiré l'autorisation maritale pour la remplacer par, en son article 450, si je ne me trompe, par la congestion de la gérance au niveau du foyer. Le patriarcat ne doit plus être à la base justement des VBG. Parce que avant la femme était frappée d'incapacité, donc quand elle était célibataire, elle était capable, mais une fois au foyer, donc elle devenait une personne incapable, elle ne pouvait prêter à aucun acte, même pas aller à une banque ouvrir son compte bancaire, même pas aller travailler parce qu'il lui fallait l'autorisation du mari. Et depuis 2016, donc ça va faire à partir du mois de juillet, ça fait 10 ans que nous avons eu la réforme du Code de la famille, qui maintenant privilégie l'indépendance de la femme mariée en particulier, si on peut étendre cette catégorie de femmes. À la base de tout ceci, c'est toujours la pauvreté économique de la femme. La pauvreté, malheureusement, en RDC, se conjugue au féminin de la femme et de la jeune fille. Ainsi que l'ignorance totale des droits, la femme ignore totalement ses droits, et c'est ça qui est à la base des violences sur le genre.
Oui, madame, vous parlez des lois qui ne sont pas appliquées, vous parlez également de la pauvreté de la femme dans ces pays, mais vous ne pensez pas qu'il faille aussi ajouter cette conception, cette perception qui continue d'entretenir l'homme congolais vis-à-vis de la femme, l'homme congolais qui a toujours du mal, n'est-ce pas, à intérioriser le fait que la femme, c'est son égale.
Oui, oui, effectivement. Donc, les préjugés, surtout les coutumes, vous savez, toutes les traditions, la mentalité, en fait, congolaise de l'homme. Donc, il y a aussi, on peut parler de l'éducation que l'homme reçoit vis-à-vis de la femme. Quand il est petit garçon, donc c'est à lui qu'on apprend que non, toi tu n'as rien à faire, tu es l'homme, quand tu seras plus grand, c'est toi qui seras l'autorité. Mais la femme à côté, la fillette à côté, on lui apprend que non, c'est elle qui doit dépendre de l'homme. Et c'est cette mentalité qui fait que jusqu'à présent, il y a cette tendance de l'homme à penser qu'il a la domination, il domine sur la femme et que la femme n'a absolument rien à dire. Mais il y a aussi au niveau de la femme, on lui apprend que non, c'est toi qui dépends de l'homme, tu n'as pas à t'afficher vis-à-vis de l'homme, tu dois rester derrière, tu n'as pas un mot à lui dire. Donc il y a tout un travail d'éducation, de comportement qui doit pouvoir être accentué. On ne dit pas qu'il ne faut pas respecter nos traditions congolaises parce que nous avons de bonnes valeurs, mais il faut peut-être retirer toutes les mauvaises traditions qui justement sont là beaucoup plus pour étouffer la femme, pour la garder comme la petite fille, un enfant perpétuel, donc infantiliser la femme.
Merci.
Et lui faire croire qu'elle n'a rien à dire. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est quand même les efforts qui sont faits au niveau de la présidence de la République avec la mise en place d'un numéro vert qui est le 122 justement pour l'assistance juridique médicale et psychologique de toutes les victimes des DDG. J'ai été visiter ce centre et je peux vous dire que par jour, c'est 800 cas d'appels de DDG qu'ils enregistrent, donc 3000 par mois. Donc c'est pour vous faire un peu l'état des lieux de ce qui se passe en ce qui concerne les DDG.
Merci, professeur Pierre Vivience. Quel est votre regard par rapport à cette question?
C'est une question très importante puisqu'elle concerne quand même la moitié de la population. C'est une question qui, jusqu'il y a une quarantaine d'années, était très mal traitée dans les pays occidentaux et du Nord en général, parce qu'effectivement, on considérait un petit peu avec la même vision patriarcale que Madame Kamango vient de décrire, que l'homme pouvait faire ce qu'il voulait, etc. Et je dirais le droit des femmes en tant que tel a été instauré, je dirais seulement il y a 50 ans en Belgique, c'est l'égalité patrimoniale de l'homme et de la femme, donc la possibilité pour la femme d'avoir un compte bancaire en toute liberté, ne date que de 1976. Donc il ne faut pas croire que les pays du Nord sont beaucoup beaucoup en avance. Et d'autre part, toute l'idéologie masculiniste disant que les hommes font ce qu'ils veulent, etc., qui est propagée autour de Donald Trump, elle marque un retour important maintenant. Il y a énormément de gens qui soutiennent cela, et donc ça montre bien que ces luttes-là, elles ne sont jamais gagnées une fois pour toutes, elles sont toujours mises en danger, et donc les femmes doivent être, je dirais, valeureuses, courageuses, comme elles l'ont toujours été à travers l'histoire de l'humanité, et elles doivent effectivement faire réclamer leurs droits et les faire appliquer leurs droits.
Merci. Maître Jean-Claude Katende, vous en tant que juriste et avocat, qu'est-ce que vous pouvez suggérer aux décideurs politiques, mais aussi à la population, pour décourager la commission de violences basée sur le genre en RDC?
Merci, Monsieur Guilmaté. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, il y a une question fondamentale que nous devons nous poser. Pourquoi il y a eu amplification des violences basées sur les genres les 30 dernières années, particulièrement en République démocratique du Congo? Je pense que c'est important. Mm-hmm. Et donc, il faut dire que la guerre qu'on a vécue à travers la République démocratique du Congo, la conquête du pays par les troupes de l'ASDN, sont des faits qui ont contribué à banaliser les violences basées sur les genres. Je pense que ça, c'est important. Les contextes de guerre que nous avons connus. Parce que, avant de n'être parti à Bukavu, à l'hôpital géré par les docteurs Mukwege, je ne faisais pas foi à la description des violences portées sur des petites filles, portées sur des vieillards. Mon arrivée à cet hôpital avait fait comprendre que c'était des réalités. Mais des réalités sombres, des réalités qui font mal, parce qu'à l'Ouest, on n'avait jamais pensé un seul instant qu'une personne normale trouverait du plaisir à coucher avec une femme qui a 80 ans. Mais cela est une réalité quand vous allez dans ces milieux là-bas.
Alors, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse décourager la commission de ces VBG?
Non, mais si nous devons faire des propositions, d'abord, il faut se baser sur l'éducation. Il faut éduquer les hommes comme les femmes à des bonnes pratiques en matière de respect mutuel, en matière de respect de droits des uns et des autres. La deuxième chose, la justice doit pouvoir appliquer les lois telles qu'elles sont formulées. Je prends par exemple les viols des mineurs. Vous allez trouver que dans certains parquets, les magistrats essayent de trouver en fait des solutions à l'amiable. C'est que la loi ne prévoit pas. Et il y a des fois où on trouve des solutions en envoyant la fille qui a été violée au mariage, pensant qu'on a réglé les problèmes. Donc il y a cette question. Troisième question, c'est la question de l'impunité. Il faut que ceux qui s'adonnent à des violences basées sur les genres, quel que soit leur rang politique, leur rang social, leur rang économique, qu'ils puissent se faire l'objet de sanctions. Et ça manque énormément.
Merci. Merci. On prend une petite pause en écoutant Kaful Mayai du Seigneur Rochiro Taboulé. On se retrouve juste après.
Tibwana ngai na kokende, o tibwana ngai na kotangwa o na kotangwa. boka baba tie momo balia tumisina na kimisonie sala mama likambo basalinga ngai mwana mama Pati eleki na motema Soki na landi na kokufa Na kopala na na telengi ya libala
C'était Kafoul Maya, dit Seigneur Rochiro Taboulay. À travers cette chanson, Taboulay relate le calvaire d'une femme victime de violences conjugales. Je rappelle que nous avons dans cette émission Jean-Claude Katende, il est avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ASADO. Il est également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Madame Bernadette Kamango, elle est journaliste indépendante, elle est défenseuse des droits des femmes, elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Et en ligne depuis la ville de Liège en Belgique, Pierre Vigence, il est politologue et professeur dans les universités de Liège en Belgique et de Graben à Butembo en RDC. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, n'a pas exclu la possibilité d'un troisième mandat. Il a dit lors d'une conférence de presse organisée en marge de la Journée internationale de la liberté de la presse le 6 mai. Félix Tshisekedi a tenu à clarifier sa position sur la question sensible de la succession présidentielle. Je n'ai pas sollicité le troisième mandat, mais je vous l'ai dit, si le peuple veut que j'ai un troisième mandat, j'accepterai, a-t-il déclaré. Il a toutefois insisté sur son objectif principal, le retour de la stabilité et de la dignité de la RDC. Professeur Pierre Vigence, vous avez souhaité nous parler de cette déclaration du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi qui affirme ne pas exclure un troisième mandat. On vous écoute.
Étonnant, hein, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure avec Monsieur Maître Katende. La constitution de la République démocratique du Congo à l'heure actuelle, depuis 2005, est très claire. Le mandat du président de la République est de 5 ans et renouvelable une seule fois. Et donc, autrement dit, il n'est pas possible de faire 3 mandats d'affilée d'après cette constitution. Donc, comme cette constitution a été approuvée par un référendum, il faudrait qu'il y ait un référendum avec une approbation de plus de 2/3, puisque cette constitution avait été approuvée aux 2/3 des électeurs. Ben, il faudrait effectivement avoir une partie très très importante des gens qui posent la question. Mais on se pose même la question juridiquement de savoir comment le président de la République pourrait-il savoir que le peuple lui demande de faire un troisième mandat, puisque qui va-t-il écouter qui parle au nom du peuple? Est-ce que ce sont les représentants élus? Mais eux n'ont pas la possibilité de changer la constitution comme ils le veulent. Est-ce que ce sont des courtisans autour de lui qui vont lui dire « Gardez-nous près de vous dans votre gouvernement, gouvernement, nous allons pouvoir profiter de la corruption et nous resterons plus longtemps avec vous, ou bien est-ce qu'il va aller dans la rue pour demander à tous les Congolais, et quand il aura fini, il aura 110 ans, et donc effectivement, on ne voit pas très bien comment il va faire pour entendre ce que le peuple lui demande. Effectivement, non seulement il n'a pas demandé un troisième mandat, mais c'est rigoureusement interdit par la constitution de la RDC, et donc il risque de se retrouver face à un mur d'opposition sociale, de gens qui vont dans la rue et qui, comme face à Kabila, vont lui imposer le fait d'organiser des élections, même s'il donne trop peu de moyens à la Commission électorale nationale indépendante, même si il essaye de repousser au maximum. Kabila avait réussi à repousser de 2 ans, il n'a pas réussi à repousser plus, et donc effectivement, il est à espérer que le président de la République soit suffisamment conscient pour accepter la réalité politique du Congo, qui est que le peuple ne veut plus d'un nouveau Mobutu.
Merci, Maître Jean-Claude Katende. Pour qu'il y ait un troisième mandat, il faut les changements de la Constitution. Or, la Constitution elle-même ne prévoit pas une telle possibilité. À votre avis, comment les choses pourraient-elles se passer?
Les choses vont se passer dans le sens que le président de la République n'aura pas la possibilité, n'est-ce pas, d'organiser un troisième mandat ou d'avoir un troisième mandat. Vous savez que notre constitution actuelle, qu'on soit 3 cas où le référendum est possible, révision de la constitution telle que définie par elle aux articles 219 et 220, mais aussi le cas de transfert de la capitale vers un autre endroit, et le cas, n'est-ce pas, qui concerne l'adjonction ou l'échange des territoires. En dehors de ces 3 cas, conformément à la loi actuelle, le référendum n'est pas possible. Dans la proposition référendaire qui est en discussion, on prévoit des cas où la vie de la nation, quelque chose de pareil, serait menacée ou que la situation politique ne serait plus conforme aux réalités sociales et politiques. Ça, c'est une tricherie. Ils ajoutent un 4e cas à ce que la Constitution prévoit sans qu'ils aient le pouvoir de modifier la Constitution. C'est là que nous disons que c'est une fraude. Et donc, le président de la République ne peut pas avoir ce mandat-là parce que la Constitution ne le prévoit pas. Mais aussi, les référendums est une élection. S'ils refusent les élections générales au motif qu'il y a la guerre à l'Est, il va organiser le référendum qui est aussi une forme d'élection avec une situation de guerre. Donc, j'appelle le président de la République à rester logique avec lui-même. S'il refuse les élections générales parce qu'il y a la guerre à l'Est, il n'a plus le pouvoir de faire organiser le référendum qui est une forme d'élection sans Goma, sans Bukavu. Donc, le manque de logique du président de la République démontre tout simplement l'opportunisme que notre chef de l'État a de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Donc il cherche par tous les moyens de trouver des fissures par lesquelles il peut passer pour obtenir un troisième mandat. Comme nous l'avons déjà dit à d'autres occasions, le troisième mandat en République démocratique du Congo est périmé depuis que la constitution actuelle existe. On ne peut plus parler de troisième mandat. Le président de la République ferait mieux de se préparer à léguer le pays à quelqu'un d'autre qui pourra faire aussi avancer notre pays et notre démocratie, comme il a fait dans certains secteurs. Chercher à s'accrocher au pouvoir ne lui profitera pas parce que les Congolais ne veulent plus de président qui reste au pouvoir longtemps. Ça, c'est à lire dans les préambules de la Constitution de la République démocratique du Congo. Si l'UDPS est un grand parti, comme ils le disent, nous, on n'est pas contre que l'UDPS garde le pouvoir le plus longtemps possible, mais en alternant des candidats, comme on le voit en Afrique du Sud, comme on le voit au Kenya et dans d'autres pays. L'UDPS, la demande que nous lui formulons, c'est de pouvoir préparer un autre candidat qui va s'affronter à d'autres Congolais, à d'autres Congolaises. Si l'UDPS gagne, l'UDPS restera au pouvoir. Mais pensez à rester au pouvoir en tant que parti par la présence du président Tshisekedi, je pense que c'est un pari très risqué.
Merci Madame Bernadette Kamango, nous allons finir cette émission avec vous. Et quelle est votre lecture par rapport à cette déclaration du chef de l'État selon laquelle il n'exclut pas la possibilité d'un troisième mandat?
Bon, je pense que les deux co-débatteurs ont déjà pratiquement tout brossé. La seule chose que moi je pourrais ajouter à ce propos, c'est que le problème de troisième mandat, c'est vraiment une problématique qui est en Afrique et c'est un défi face à la démocratisation. Donc elle se résume à des révisions ou bien des changements de la Constitution pour permettre au chef de l'État en exercice de se maintenir au pouvoir et tout ça en contournant la loi fondamentale. Et c'est l'une des causes justement qui fait que l'Afrique se développe difficilement. L'Afrique n'arrive pas à sortir par exemple sur le plan économique de la pauvreté, et sur le plan sanitaire des maladies contagieuses à répétition. Et malheureusement, ceci, le troisième mandat, quand un chef d'État décide déjà de profiler un troisième mandat, ça ne se passe pas sans des contestations qui débouchent à des violences, surtout au recul des démocratiques avec la monopolisation du pouvoir et avec aussi les frustrations politiques qui s'ensuivent. Ça me laisse une petite nostalgie avec le vent de la démocratie des années 90. Avec l'institutionnalisation de l'alternance que les Africains avaient pourtant salué à l'époque. Et c'est, je me souviens qu'à l'époque, on a assisté justement au départ des gros dictateurs qui étaient en place. On a l'impression que c'est comme si on chasse les naturels pour qu'ils reviennent au galop en Afrique avec cette histoire de troisième mandat. En ce qui concerne la RDC, malheureusement, la constitution actuelle ne permet pas le troisième mandat. Et je pense que le chef de l'État s'en sortira beaucoup plus fort en respectant son mandat et justement en permettant à ce qu'il y ait une autre alternance. Il est venu au pouvoir à travers une alternance et si lui aussi pouvait nous donner cette fête de l'alternance, je pense qu'il en sortirait beaucoup plus fort et avec un grand respect vis-à-vis de tous les autres pays dans le monde entier.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Madame Bernadette Kamango, professeur Pierre Vigence et maître Jean-Claude Katendé. Merci aussi à Jean-Claude Ntiala et Dieudonné Nyangassa qui étaient à la technique. À la présentation Guy Maté, merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Ndaya, une composition des DK dans l'orchestre Ok Jazz et on se retrouve le samedi prochain.
Mama, ni kwela kwa mi jaka.